Bonjour Jean Mermier.
Bonjour.
Alors, toujours sur les feux de tous côtés, il y avait récemment la fosse suivante. Ce sont des retrouvailles avec Marivaux, que vous aviez déjà monté quand vous êtes arrivé à Carouge. C'est toujours un rendez-vous qui est très intense émotionnellement et personnellement.
Oui, j'avais monté la toute première saison en 2008, Le jeu de l'amour et du hasard. Et puis avant, j'avais fait La double inconstance et puis Les Sincères. Une petite pièce en un acte au studio du Carrousel du Louvre à la Comédie-Française. Et c'est vrai que c'est un auteur vertigineux de par sa précision sur l'analyse des sentiments amoureux, des rapports de force, des rapports humains, de où se situe l'amour par rapport aux intérêts. Et avec des personnages qui mettent en place des dispositifs abracadabrantesques et qui sont toujours dépassés par les machines qu'ils ont mis en place. Et c'est magnifique de voir ces fragilités, ces failles. Et je trouve que à entendre aujourd'hui, particulièrement la fosse suivante, voilà, ça résonne avec la période qu'on traverse. Et je le voyais tant sur le public adulte que sur le public de jeunes, à quel point ça pouvait résonner, particulièrement avec la question du genre, évidemment, puisqu'il s'agit d'une femme qui se déguise en homme pour arriver à découvrir des réelles motivations de la personne qu'on prétend lui faire épouser. Donc ça pose plein de questions parce qu'elle va être, finalement, elle va être amenée à séduire une femme et elle va commencer à être troublée et à se prendre au jeu de ça. Donc c'est des ouvertures comme ça sur la machine de l'être humain que je trouve qui reste encore une fois d'une pertinence à entendre aujourd'hui avec une langue qui touche les gens. On a beaucoup, beaucoup de retours du public qui disent « Mais quelle langue, c'est extraordinaire !» Et je trouve de pouvoir se reconnecter avec une pièce écrite en 1724, il y a 300 ans, et qu'on puisse vraiment l'entendre et réagir aujourd'hui, voilà, c'est une belle façon de se dire que cette histoire-là, peut nous amener des perspectives pour réfléchir aujourd'hui.
Et c'est cette modernité qui vous plaît.
Oui, c'est-à-dire que c'est intemporel, il y a quelque chose. Alors oui, il y a des choses qui ne sont plus de notre époque, mais le public sait faire la part des choses. Mais après, il touche à quelque chose de l'être humain qui traverse les époques et traverse le temps. Et ça, il n'y a pas tant d'auteurs, il y a pas mal d'auteurs quand même qui ont, entre guillemets, vieilli ou leur capacité ou leur pertinence, leur acuité à comprendre les mécanismes de l'être humain n'était pas peut-être à la hauteur de Marivaux, qui était pas toujours très bien compris hein, à son époque. Les gens disaient, oui, mais bon, c'est trop détaillé, on comprend pas. Souvent, ils se disent les pièces en trois actes, mais pourquoi elles s'arrêtent pas au deuxième acte? Et on a mis du temps à comprendre vraiment le dramaturge. Marivaux, c'est venu beaucoup plus tard, et particulièrement évidemment avec la mise en scène de la dispute de Patrice Chéreau, Planchon avant, qui sont des gens qui ont réussi à révéler les spécificités de ce génie absolu qu'était Marivaux.
Alors avec la fosse suivante, si je ne m'abuse, vous retrouvez d'abord le reflet à Vevey, mais aussi la cuisine à Nice.
Oui, alors ça, c'est une boucle qui se boucle dans l'histoire de ce spectacle, puisque nous l'avions créé en 2020, au mois de mars, et qu'on a pu le jouer sur les 4 semaines, une seule semaine, puisque le théâtre a dû fermer avec la pandémie qui arrivait. Et on l'avait créé à la cuisine, répété et créé à la cuisine. Et qu'entre-temps, bah, on a vendu la cuisine à Nice. Voilà, on était maître d'ouvrage, donc on a dû la démonter à Carouge, on l'a déplacée, reconstruite à Nice, près de Nicaïa. C'est maintenant une des salles du Théâtre National. Et voilà, on va terminer la tournée en jouant dans une salle qui était à Carouge, où quand on sortait, on était près des tours. Et là, en sortant, on est près de la Méditerranée. Alors que c'est exactement le même bâtiment, mais pas dans sa conception. Ce sont les murs mêmes, les fauteuils, les loges. Je crois qu'ils ont même gardé la signalétique. Donc, pour celles et ceux qui étaient à la création, ça va leur faire vraiment quelque chose de très étranger par rapport à cette aventure qui était une aventure incroyable de la construction de ce théâtre éphémère dans son utilisation à Carouge, de se retrouver à la cuisine Théâtre National de Nice pour jouer la fosse suivante qui a été créée à la cuisine Théâtre de Carouge. Voilà, il y a une espèce, non pas de pied de nez sur la pandémie, mais ouais, c'est une immense satisfaction pour tous les efforts que celles et ceux qui ont œuvré à pouvoir permettre aux artistes et au public de continuer à assister à des spectacles du Théâtre de Carouge dans des grandes formes pendant la reconstruction du théâtre. Là, de se dire qu'on va retrouver ces murs-là bouclés avec ce spectacle-là en particulier qui a été atrophié dans son exploitation à cause du Covid. Ouais, je trouve que ça va être un moment, je pense, très chargé d'émotions.
Et par rapport à vos comédiens qui étaient vraiment dans un extrême jubilatoire à chaque représentation, le public était au rendez-vous et savourait ces moments, est-ce qu'ils ont retrouvé avec plaisir la fois suivante?
Oui, alors c'est toujours l'avantage des reprises. C'est-à-dire qu'il y a, au moment de la création, il y a parfois quand même des choses qui ne sont pas encore tout à fait décantées. À l'intérieur de la comédienne ou du comédien, il faut que les choses descendent, il faut faire cas aussi de ce nouveau partenaire qui est le public, qui vient et qui participe à plein à la représentation, et de pouvoir reprendre, il y a peut-être quelque chose de moins volontariste dans le jeu des interprètes, une compréhension peut-être plus intime, et puis on peut aller plus loin pour le coup. Et que là, notamment sur le troisième acte, sur les moments de trouble du personnage du chevalier, qui est cette jeune fille de Paris qui s'est déguisée en homme, et elle a des apartés ou des réflexions sur elle-même, où elle fait part de son trouble en disant « Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Mais est-ce que j'ai le droit? Est-ce que c'est possible? Qu'est-ce que ça me fait de voir, moi, femme déguisée en homme, les troubles que je vois de l'émotion de la comtesse que je suis en train de séduire et la découverte de ça. Et ça, c'est vertigineux à interpréter parce que c'est vraiment le des choses qui dépassent le personnage et qui se glissent, et que là, je trouve que Lola Just, donc le personnage du chevalier a été créé par Rebecca Balestra, qui, parce qu'elle a eu un bébé, n'avait pas pu faire la reprise. Donc c'est Lola Juice qui la remplace, qui est magnifique aussi et qui a une capacité à rendre compte de la langue qui est très particulière, qui est très singulière, qui est la sienne, et qui amène une modernité et un aspect direct. On a l'impression qu'elle est en train, en le disant, de réécrire le texte, alors que c'est finalement celui de Marivaux. Donc là, ça nous permet, avec les reprises, d'aller plus loin dans le travail, de gagner dans la confiance et puis dans l'inventivité. Et que là, je dois dire, cette semaine de représentation à Carouge a été gracieuse. C'était vraiment, ils étaient heureux de se retrouver joueurs entre eux, et que, comme Marivaux le souhaitait, il l'écrivait pour les comédiens du théâtre italien, parce qu'il savait qu'ils venaient de la Commedia dell'arte, qu'ils avaient l'habitude de se faire des lazzi, des blagues, qu'ils se répondaient comme ça du tac au tac. Il cherchait ce plaisir du jeu qui correspondait à quelque chose de la vie pour lui. Et que là, je voyais ces comédiennes et ces comédiens sur le plateau, toutes et tous pour leur rôle, et qui étaient magnifiques de plaisir de rendre compte de cette histoire. Et que là, bah voilà, à chaque fois, ça me fait le même coup, je me dis, Marivaux n'est pas tout à fait mort.
Et c'était très perceptible, très tangible pour le public. Alors, Jean Lhermier, vous êtes partout. Je crois que vous êtes hyperactif, on dirait à l'heure actuelle, cette étiquette. À notre époque, on ne la disait pas, mais vous êtes partout et vous êtes en train de répéter intensément pour l'Opéra de Lausanne, Così fan tutte, Mozart. Mozart, c'est aussi un rendez-vous important pour vous.
Oui, alors là aussi, c'est une reprise. C'est un spectacle que j'avais monté à l'Opéra de Lausanne. C'est Éric Vigier qui m'avait proposé. C'est un opéra qu'on m'avait déjà proposé comme metteur en scène. Et j'avais toujours un peu botté en touche parce que je ne comprenais pas exactement comment on pouvait empoigner cette histoire pour qu'on puisse vraiment l'entendre aujourd'hui, là où se trouvaient exactement les enjeux. Et puis, j'ai fait, quand Éric Vigier, le directeur de l'Opéra de Lausanne, m'a proposé, je lui ai dit, écoute, laisse-moi un petit peu de temps. Et puis, j'ai eu cette idée en retravaillant de faire un déplacement en fait du cadre de l'histoire, en étant extrêmement respectueux et en même temps un peu irrévérencieux, comme pouvaient l'être Da Ponte et Mozart, en recontextualisant ça dans le cadre d'une émission de télé-réalité. Alors je m'appuyais sur des séries que j'avais pu voir comme Mon incroyable fiancé, mais qui a des liens très directs avec l'histoire de Cosi, puisque c'est l'histoire d'une jeune fille à qui on faisait croire qu'elle devait se marier. Elle devait faire croire à ses parents qu'elle allait se marier avec quelqu'un, mais qu'elle ne connaissait pas. Et ce que ne savait pas cette jeune fille, c'est que le comédien en face, Laurent Ornac, était un comédien. Et que tous les gens, toute sa famille, étaient des actrices et des acteurs, et qui se jouaient d'elle. Et que moi, quand j'ai vu ça, ce qui me surprenait, c'est que la fille devait faire croire à ses parents, qui était désespérée, parce qu'évidemment, Ornac en faisait des tonnes, et personne n'avait envie de l'avoir pour gendre, comme beau-fils, et qu'elle tenait bon. En même temps, dès qu'elle était dans les coulisses, elle se mettait à pleurer d'émotion, disant, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Les parents disaient, mais on ne peut pas laisser notre fille. Et je voyais, ou j'entendais, l'audience qui ne cessait de grimper sur le désespoir de cette famille. Et que cette cruauté-là, on la retrouve dans Cosy. Et puis une autre qui s'appelle L'île de la tentation, où effectivement des couples viennent, voilà, choisissent de venir passer une semaine dans une île où chacune et chacun séparé va être tenté par des bellâtres et des magnifiques filles qui vont tout faire pour les séduire. Et que là, on se retrouve exactement dans la même situation dans Cosy fan tutte, puisque tout part d'un pari. Et c'est une question d'argent qui va motiver les garçons sur la fidélité de leur chérie respective. Et que là, ils vont les tenter en se déguisant. Donc, le souci de la crédibilité du déguisement était très important pour moi. Et que là, on est arrivé avec Rudy Sabungi et Cécile Kretschmar au maquillage et perruque à faire en sorte que ça devienne des personnages... oui, vraiment tirés de la télé-réalité, mais qui sont super crédibles. C'est-à-dire que je peux croire que les filles n'imaginent à aucun moment que ce sont leurs copains militaires qui se sont déguisés. Donc là, l'histoire prend à la fois une distance de l'humour, parce que les gens décryptent évidemment les références, mais c'est extrêmement fidèle ensuite au scénario. Et Don Alfonso devient un producteur-présentateur de son émission, qui est le sous-titre en fait de l'opéra La Scuola degli Amanti.
Avec le prix de la production.
Avec, ouais, ouais, il y a tout, le jackpot qu'ils vont trouver, tout ça. Voilà. On a essayé de faire vraiment l'emballage de ça. Et voilà, le plaisir qu'on pouvait avoir à la création, c'était l'émotion que pouvait avoir le public et les rires. Les rires, pas des gags, mais des rires même au texte, des récitatifs, c'est-à-dire du projet de Mozart et d'Aponte. Donc ça, c'est vraiment de pouvoir retrouver cette production, de pouvoir la remonter avec un cast qui a changé, à l'exception de Robert Glido, qui joue le personnage de Guglielmo et qui est un sublime chanteur et sublime acteur. Donc c'est une pièce maîtresse dans le dispositif. Et avec les autres qui l'accompagnent, qui sont aussi de magnifiques interprètes. Voilà. Et après, c'est comment on ajuste avec les nouveaux, qu'est-ce qu'ils amènent de différent de celles et ceux qui étaient à la création. Donc c'est intense pour eux, parce que j'arrête beaucoup, c'est extrêmement précis ce qu'on demande. Donc c'est épuisant et éreintant pour eux, parce que dès qu'ils se lancent dans un air, je peux être amené à arrêter, à reprendre, à reprendre, à reprendre. Mais je sais qu'au final, quand moi je me retire et que je laisse la place au chef d'orchestre et à l'orchestre et à eux, au chœur, voilà, le plaisir sera... au rendez-vous, à la fois, là aussi, comme pour le Marivaux, pour les interprètes, parce que c'est une invitation à jouer qui est extraordinaire, et évidemment, par contagion, pour le public.
Voilà, il y a une nouvelle question de marivaudage, de traversissement, et en plus, le drame, c'est que ces jeunes femmes cèdent, elles tombent dans le piège. Donc c'est ça aussi qui est truculent dans les Cosy fan tutte.
Oui, c'est-à-dire qu'il faut trouver vraiment qu'est-ce qui fait que c'est... qui va les travailler au corps, comme Don Alfonso et Despina, qui travaillent pour elles, et qui vont dire, mais vos chéris sont partis, mais c'est pas si grave finalement que d'aller avec quelqu'un d'autre, faut profiter de la vie. Soit ils meurent, comme ça vous avez tous les autres qui s'offrent à vous, et puis s'ils reviennent, ils seront bardés de médailles, et ça sera que mieux. Donc là, il faut profiter du temps présent, et Despina participe à plein au projet de Don Alfonso, d'insuffler dans l'esprit de ces deux jeunes filles, en disant, mais c'est rien, ça n'est pas si grave. Et que finalement, les autres sont tellement charmeurs et tellement séducteurs qu'elles se disent, bon, pourquoi pas? Si j'avais à choisir avec lequel j'irais, et c'est là qu'il se passe une chose incroyable, c'est que chacune, tant Fiordiligi que Dorabella, va choisir l'autre personne, celle avec qui elle n'était pas en couple. Donc, sans le savoir, va se pratiquer de l'échangisme. Les comédiens, enfin, les deux, Guglielmo et Ferrando, ne s'y attendaient pas du tout. Et que si je prends l'histoire au sérieux, de se dire, mais là, ils doivent faire des scènes avec la copine de leur copain et de la séduire, qui va aller au bout? Donc, il y en a, je ne veux pas tout spolier l'histoire, mais il y en a un qui va aller arriver au bout, l'autre, elle a résisté. Comme il va apprendre que sa copine a craqué, il va essayer quand même de la faire craquer, mais de là va quand même naître une histoire d'amour. Et que je me dis, ce n'est pas tant l'infidélité finalement des femmes qui est célébrée par Mozart, parce qu'il était très 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 loin de ça. C'est beaucoup plus complexe, c'est à la fois sur la machination et la manipulation, mais également sur peut-être que la question fondamentale, c'est qu'au début les couples n'étaient tout simplement pas assortis, et qu'il y a quelque chose dans l'amour qui nous dépasse, et que des fois, ben, là on le connaît dans nos existences, c'est que des fois, ben, l'amour passe, ou on se dit ben, je me suis trompé, ou... et puis on est susceptible de pouvoir reconstruire notre vie ou la construire avec quelqu'un d'autre. Donc c'est plutôt de rendre compte du vertige de l'amour et des sentiments, où parfois ben, c'est peut-être pas tout à fait la bonne personne. Et là, dans ce projet-là, il y a un couple, Ferrando et Ferdinigi, qui vont véritablement se trouver. Et moi, j'ai une petite pirouette à la fin qui essaie de rendre compte de ça. Mais pour ça, il faut venir à l'Opéra de Lausanne.
Et L'école des amants, il me semble que c'était le titre original, non ? De l'œuvre. Avant Così fan tutte.
Ouais, puis après, il a mis Così fan tutte et c'est le sous-titre qu'ils ont gardé finalement.
Alors là, il
mais est... l'autre jour, j'enchaînais un bout du... Donc je déroulais tout le final de l'acte 1, où les garçons sont en train de faire croire aux filles, ils font croire à une tentative de suicide en prenant des médicaments, en disant « mais vous nous désespérez parce que vous ne voulez pas de nous, les filles ne savent pas quoi faire dans cette situation d'urgence, elles vont s'en rapprocher, voir leur corps, enfin, ça va créer, ça va placer des éléments de fragilité, de faille, de découverte ». Et j'enchaînais ça, et je me disais, on a terminé la séquence, à peu près 15 minutes de musique non-stop, et j'étais ému quasiment aux larmes, et j'ai juste dit, je tenais juste à dire merci à Mozart et à Da Ponte. Parce que le plaisir qu'il nous procure, l'invention dont ils font preuve, musicalement c'est sublime, il prend toujours un peu le contre-pied de la situation, quand il y a du tragique il y a de l'humour, quand il y a de l'humour il amène quand même de la profondeur, et que de pouvoir travailler avec eux, qui sont pas si loin que ça, Mozart et Da Ponte, voilà, je leur disais mais profitons de la chance que nous avons momentanément de pouvoir compter comme partenaires de tel génie.
Alors, Wolfgang Amadeus Mozart et Lorenzo da Ponte avaient déjà travaillé ensemble. Oui. Et là, en fait, c'était sur la demande, en fait, du duc viennois. Bah, c'était une histoire réelle. Il s'inspirait d'une histoire réelle qui avait eu lieu entre deux officiers qui étaient en poste à Trieste. Donc, en fait, c'est peut-être aussi ça, la résonance pour les contemporains de Mozart et de da Ponte, la résonance avec une histoire bien réelle. On dirait aujourd'hui qu'on s'inspire un petit peu de la littérature... people.
Ouais, mais c'est important ce que vous dites, parce que quand on remonte un spectacle, et puis parfois il y a ce débat actuellement sur les classiques, sur la place des metteurs en scène dans
la
les œuvres.
Aussi.
Ouais, c'est ça. Et que là, l'idée, c'est non pas de faire un spectacle historique où les personnes du public de 2024 n'auraient pas les codes et les références. L'idée, c'est au contraire d'essayer de comprendre à qui ça s'adressait et de qui ça parlait exactement à l'époque. Donc comment les gens rentraient finalement dans cette histoire qui était une histoire contemporaine pour eux. Et puis, par le glissement, moi, dans la télé-réalité, ben, il y a la même opération, en fait, qui se joue. Et qu'on arrive à rentrer et à profiter à plein, encore une fois, de leur scénario. Et je me souviens, j'avais eu la chance aussi de monter les Noces de Figaro, et où on me disait, oui, mais tu verras, moi, j'avais travaillé l'œuvre de Beaumarchais, et on me disait, oui, mais chez Mozart et Da Ponte, c'est quand même beaucoup moins politique. Et puis, je me disais, ah bon, mais ça m'étonne quand même. Et puis, en travaillant sur l'ouvrage, si on regarde le processus de travail, donc Da Ponte écrit, il fait l'adaptation du texte de Beaumarchais, qui a tout de suite plu, évidemment, à Mozart et à Da Ponte. Il en fait l'adaptation et il envoie les textes au fur et à mesure à Mozart, qui va composer les airs, les duos, les trios, etc., les récitatifs. C'est lui qui va choisir où il met les gros plans musicaux. Et il reçoit le quatrième acte, où au début, il y a un jeune personnage, mais qui est vraiment un cinquième couteau, qui s'appelle Barberine, et puis qui a une petite scène où elle a perdu une épingle, mais qui va créer une zizanie pas possible, et son texte, c'est « J'ai perdu l'épingle, mon Dieu, j'ai perdu l'épingle, que va dire le comte ? J'ai perdu l'épingle. » N'importe qui aurait fait un récitatif de ça. Mozart a donné à Barberine l'un des plus beaux airs qui existent dans l'opéra. Et que je me dis, mais il est là le geste politique. Il a donné, avant Büchner, la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas. Et en lui magnifiant, grâce à sa musique, et en mettant en avant ce personnage, oui, la politique, elle se trouve à cet endroit-là. À comment on écoute et on fait cas de la parole de celles et ceux qui d'habitude ne l'ont pas. Donc l'idée, en abordant l'opéra, c'est de ne jamais avoir d'a priori ou d'idées préconçues, mais de les aborder au plus près de ce qu'ont cherché les géniteurs ou les génitrices, et puis ensuite de trouver le bon cadre pour le donner à entendre aujourd'hui.
Et pour trouver le bon cadre, il y a aussi un travail important sur la gestuelle, y compris pour les chanteurs et les chanteuses.
Oui, alors là, c'est moi, je m'y prends exactement de la même façon avec les acteurs et les actrices de théâtre qu'avec les chanteuses et les chanteurs. C'est-à-dire que je fais très attention de ne pas les mettre en danger par rapport à leur voix. Ils ont besoin que le diaphragme soit libre. Je ne vais pas les suspendre par les pieds. Enfin, je ne suis pas. On peut le faire. Hein, moi. Mmh. Moi, je ne le fais pas parce que je ne le ferai même pas avec des acteurs. Donc, ça ne me vient pas à l'idée. Mais par contre, de pouvoir être attentif, même jusqu'à la position de leurs pieds, jusqu'à un geste de main sur la qualité d'un mouvement pour déposer un sac, chaque chose, en fait, correspond à du rythme. Et l'idée, c'est de faire le lien avec eux. Et de s'inscrire, là par exemple, avec Marie-Cécile, qui est celle qui fait le piano et qui fera le continuo au moment des représentations, qui est absolument un génie de la musique. Cette femme est extraordinaire. Et que là, c'est toujours de faire référence avec l'orchestre et de trouver les petits ponts musicaux sur les codas et d'arriver à faire en sorte qu'on donne l'impression qu'en fait, la musique a été écrite pour le spectacle. C'est ça l'aboutissement. Non pas pour que la mise en scène prenne le devant, je ne le cherche pas, je cherche à m'effacer au profit et au bénéfice, en l'occurrence, de Mozart et da Ponte. Mais que ça passe par le spectacle total, c'est-à-dire où leur corps, où dans les récitatifs, l'adresse de ce qui est en train de se jouer, des enjeux, là, c'est exactement les mêmes principes ou protocoles ou démarches ou recherches, parce qu'on tâtonne hein, souvent, ou avec chaque chanteuse ou chanteur, exactement comme pour les interprètes de théâtre, ben, ils n'ont pas tous les mêmes parcours, les mêmes sensibilités. Donc, il faut trouver les portes d'entrée et puis essayer d'ouvrir les verrous pour qu'ils soient ensuite, au moment de la représentation, les plus concrets dans ce qui est en train de se jouer. Et que ça, je fais ce postulat, c'est que ça aide à chanter, en fait. Donc, je ne suis pas là pour enfreindre, mais pour interpréter. C'est-à-dire, quelle est la lecture, quel est le point de vue, qu'est-ce qui va être souligné pour qu'on ait vraiment l'impression que l'histoire est en train de s'écrire sous nos yeux.
Justement, pour qu'on ait l'impression qu'elle s'écrit sous nos yeux et ressentir cette modernité, vous avez travaillé sur à la fois les costumes, sur les perruques qui ne sont pas talquées et rehaussées comme à l'époque, pas de crinoline. Et quel est le travail que vous avez fait sur le lieu? Parce que dans le livret, c'est Naples. Et vous, sur...
on avait une discussion hier avec le chef, avec Diego, le chef d'orchestre, immense artiste. Et
avec lequel il y a une émulation.
Oui, voilà, ça se passe bien, on s'entend bien, il accroche en fait à la démarche, il rentre dans le jeu, ça c'est formidable quand il y a cette complicité, parce que je sais qu'ensuite c'est lui qui aura la main sur la représentation, donc qu'il puisse prendre le temps et avoir l'énergie d'assister et de diriger pendant toutes les représentations, dans toutes les répétitions, c'est long, je coupe beaucoup, mais il reste tout le temps en alerte. Et ça devient presque un sparring partner à des moments avec moi. Et que là, je dis ça parce qu'on avait une discussion hier où il me disait, mais on a une photo, à un moment donné, une immense reproduction de photos d'un port qui n'est pas Naples, qui est Marseille. Et lui me dit, mais tu sais, on m'a dit que la photo là-bas, c'était Marseille. Pourquoi on ne change pas dans le texte? Pourquoi on dit Naples? Parce que, eh bien, je dis, bah, parce que dans l'histoire, c'est Naples. Mais il me dit, mais non, en fait, ça a été Naples, ça a été Trieste, ça a été en fonction des décors qu'il y avait dans les théâtres. Et en fait, ils utilisaient les toiles peintes qui étaient déjà dans les théâtres. Donc ensuite, lui, il changeait juste le nom en fonction de ce qui était à disposition. Et qu'il puisse avoir cette liberté-là et de dire, mais attends, c'est pas, l'histoire ne va pas changer fondamentalement parce que, si on revient à comment ils ont fait les choses, c'est pas un truc historique de telle époque ou de tel lieu. Et il dit, mais on peut avoir cette liberté-là. Et que ça, alors après, je ne sais pas si au final, la représentation, on changera, mais hier, il chantait Marseille. Et je trouvais ça tellement vivant et tellement ouvert comme démarche que ça stimule, ça galvanise, en fait, dans le travail.
Vous auriez pu chanter Lausanne aussi.
Ben, il se trouve que ce n'était pas une photo du port d'Ouchy.
Voilà, il n'y avait pas les Alpes derrière et tout ça. vous aimez à la fois la mise en scène théâtrale comme l'opéra. On a cité tout ce que vous avez monté. Est-ce que vous travaillez très différemment, que ce soit l'opéra ou le théâtre, ou il y a quand même des traits communs ?
Alors, le trait commun, c'est qu'il y a des interprètes. Donc il faut travailler le jeu. Après, la grande différence, c'est qu'au théâtre, on n'a pas de musique. Donc la musique, elle va s'inventer, les rythmes vont s'inventer vraiment dans le temps des répétitions. Et qu'on peut, voilà, toutes les pistes sont ouvertes au début. Tandis que là, on a quand même la musique qui est donnée, les tempi qui sont dans la partition et que va interpréter le chef ou la chef d'orchestre. Donc il y a un cadre extrêmement fort. Et puis on se trouve face à des interprètes qui souvent ont déjà joué le rôle, parce que ça fait partie de leur répertoire. Donc là, j'en ai qui ont déjà chanté des rôles pour lesquels ils sont dans cette production. Et que là, c'est d'essayer de voir les traces de la dernière représentation qu'ils ont faite de Così fan tutte. Il y a des choses à garder, puis il y a des choses, il faut dire, mais non, là, c'est un autre projet. Mais ils ont déjà toute la partition musicale, tout le texte quand ils arrivent. Donc, c'est des coups d'avance énormes par rapport au théâtre. Donc là, le temps de répétition est beaucoup plus court, beaucoup plus ramassé. Mais effectivement, grâce à la musique et grâce à ce cadre-là qui est donné par les tempi, en l'occurrence, et le fait qu'ils sachent ce qu'ils ont déjà à chanter, c'est qu'ils vont extrêmement vite. Et ça me surprend à chaque fois. Je me dis, mais c'est dingue. Je me dis, mais on n'aura jamais le temps. Et je les vois, et le chant. Et après, c'est juste des petites choses où on va ajuster et on va parler avec eux pour renourrir la situation, pour qu'ils soient le plus disponibles ensuite dans le jeu et pour la représentation. Mais la grande, grande différence, elle vient de celle-ci, c'est la question du temps.
Du temps et du chant et de la musique. Là, vous avez mentionné, Jean Lhermier, qu'ils ont eu certains déjà l'occasion, puisque ça fait partie de leur répertoire, d'interpréter leur rôle. Est-ce qu'il y a beaucoup de travail en ce qui vous concerne en tant que metteur en scène, en amont, pour voir justement ce qu'ils ont déjà donné comme interprétation et prestation, pour voir ce que vous pouvez apporter vous ? Est-ce qu'il y a beaucoup de recherches en amont ?
Alors, les recherches, je ne les fais pas spécifiquement vis-à-vis des chanteurs ou des chanteuses. Je les fais vraiment par rapport à d'autres mises en scène qu'il y a eu de l'œuvre. Donc, d'une façon générale, je commence à travailler moi de mon côté. Ensuite, je vais regarder comment telle ou telle metteuse en scène ou tel metteur en scène a résolu des moments, des passages, et ce qui me permet de me préciser. Non pas pour copier, mais pour me permettre d'aller plus loin en me disant, tiens, non, mais là, ça, c'est le chemin que je voudrais épouser. Et là, avec Rudy Sabungi qui signe la scénographie et les costumes, là aussi un génie de la scène, on fait vraiment un déroulé extrêmement précis, même des changements de décor, pour qu'ils correspondent au rythme de la musique dans les transitions et qu'il n'y ait pas de trou. Donc là, contrairement au théâtre où on a un cadre, où moi je sais en gros, voilà, là où ça va se jouer, mais après, à l'intérieur de la scène, voilà, je veux découvrir ça en répétition et être surpris et à inventer. Là, à l'opéra, on a quand même beaucoup de coups d'avance, parce qu'il y a énormément de choses qui sont à anticiper et qu'on peut anticiper parce que la musique est là. Donc, c'est une démarche un petit peu différente, mais je ne m'appuie pas spécifiquement sur le parcours des interprètes qu'ils ont eu, parce que ça, je vais le découvrir au moment où ils arrivent. Et puis ensuite, le but, c'est d'essayer de les convaincre de la pertinence du projet, que je suis dans une attitude bienveillante à leur endroit, et que l'idée, c'est qu'on s'amuse ensemble à essayer de raconter au mieux cette histoire. Et peut-être d'une façon un peu inattendue ou originale pour eux, ce qui excite leur curiosité et leur donne envie et qu'ils ont l'impression de redécouvrir comme ça l'œuvre, même si parfois ils l'ont joué dans 3-4 mises en scène différentes, mais que là, suivant l'approche et la justesse ou la cohérence du projet, alors ils s'enrichissent à nouveau d'une nouvelle version avec laquelle ils arriveront pour la prochaine version de Così fan tutte qu'ils seront amenés à faire. Et ils en garderont peut-être une trace de celle-ci.
Jean Lhermier, ce n'est pas la première fois que vous vous retrouvez à l'Opéra de Lausanne. Qu'est-ce que vous éprouvez dans cette salle ? Chaque salle apporte quelque chose.
Alors là, c'est l'équipe. Bon, le guignol, je dirais, le théâtre en lui-même, suite aux travaux qui ont été faits, de la cage de scène, tout ça, techniquement, c'est équipé de façon merveilleuse. Il y a tant au niveau des projecteurs, tout ça, c'est vraiment le grand luxe. Ça reste une petite maison. c'est-à-dire qui est à échelle humaine, qui est extrêmement créative en termes de programmation, de création. Le rapport Sensal est formidable, parce qu'on est vraiment dans une petite bonbonnière, un petit écrin, tout le public est proche véritablement des interprètes, puisque c'est un théâtre à l'italienne. Oui. Et puis surtout, la grande force de l'Opéra de Lausanne, c'est son équipe, ce sont ses équipes. C'est une équipe de technique au plateau, l'équipe de production, les régisseurs, à l'administration. C'est vraiment une maison qui a un charme fou. J'adore aller travailler avec eux parce que ils sont un peu. Enfin, je vois des similitudes avec mon équipe. C'est des gens qui aiment ce qu'ils font. On le voit quand ils sont, quand ils participent, quand ils sont pris dans un projet où ils sont prêts à tout, ils ont envie de bien faire, ils en parlent pour faire venir du monde. Enfin, il se passe quelque chose qui est à la fois hyper professionnel et aussi très chaleureux, bienveillant. Et familial presque. Et que ça, de pouvoir les retrouver, puisque j'avais créé My Fair Lady là-bas, que j'avais repris aussi là-bas, j'avais fait le Cosy. Donc voilà, ce sont maintenant des gens qui me connaissent un peu, et moi aussi. Donc ça crée des liens comme ça dans le travail où on a envie à la fois de se dépasser et de bien faire, et en plus, c'est le plaisir de se retrouver. Mais là, vraiment, j'insiste sur l'équipe technique et de régie, celles et ceux avec qui je suis vraiment en prise directe, ou la Marie-Cécile au piano pour les répétitions, jusqu'à la générale piano. Ce sont des gens, mais vraiment hors normes. Et que ça, quand on voit un théâtre sain dans ces endroits-là, qui sont les endroits qui sont l'ADN d'un théâtre de création, qu'il soit lyrique ou une maison de théâtre parlé, ben, je m'y sens comme un poisson dans l'eau, quoi.
Il y a une effervescence.
Ouais, c'est le plaisir d'y aller, c'est le plaisir de les retrouver, c'est le plaisir de chercher, c'est le plaisir de pas y arriver, mais ça se fait dans une dynamique comme ça de où on est ensemble et on, oui, c'est la notion de partage et d'être bien. J'y suis, c'est pas une histoire d'être attentif, mais on essaye de créer un climat pour favoriser ça, parce que je sais que ça permet aux gens d'être en confiance, donc d'aller plus loin dans le travail, et que je sais que par ricochet, c'est le public qui va en bénéficier. Et que tout projet, le sens même reste la rencontre entre une œuvre, des interprètes, une équipe d'un spectacle et l'équipe d'un théâtre, avec des gens qui nous font l'amabilité et la gentillesse de venir nous voir. Je crois que les représentations, elles sont quasiment pleines. Donc, ça fait des milliers de gens qui ont déjà décidé de venir voir le spectacle. Voilà, je me dis, mais c'est quand même formidable avec tout ce qu'on a traversé comme période du Covid, ou la difficulté, la violence du monde dans lequel nous sommes, de se dire que des œuvres comme ça qui font du bien fondamentalement, parce qu'on en rit, parce qu'elles nous touchent, parce qu'elles nous émeuvent, parce que la musique ou l'opéra fait grandir, nous élève. Dans aussi les sentiments et dans l'émotion qu'elle est susceptible de pouvoir toucher chez chacune, chacun, pas forcément dans les mêmes endroits ou pour les mêmes raisons, mais que ça, de me dire que visiblement il y a des gens qui sont en recherche de ça et dans le besoin de ça, et que nous puissions y répondre, je me dis, alors c'est au-delà de l'utile, c'est de l'ordre de la nécessité.
Alors Jean Lhermier, on voit aussi que d'après ce que vous dites, ben, ces œuvres elles fédèrent, elles réunissent, c'est important de nos jours vu ce qui se passe. On doit bientôt vous quitter, donc je sais que vous avez fait du russe au lycée, vous le parlez quasiment couramment, et que d'ailleurs vous avez fait venir des artistes russes sur la scène de Carouge. Maintenant vous parlez italien aussi couramment.
Non, je ne le parle pas couramment. Non, le russe, je l'ai beaucoup oublié parce que j'ai arrêté après le bac. Mais oui, j'ai des notions comme ça qui me restent. Mais les langues, et c'est-à-dire ce qu'elles induisent dans la façon de penser, parce que c'est ça, le français qui est beaucoup plus peut-être cartésien qu'un italien.
Ou, la langue de l'amour.
Voilà, et puis là, ce que cherchait hein, Marivaux, ou, là avec Da Ponte dans sa complicité avec Mozart, les anglais, Shakespeare, la langue l'allemand avec le verbe qui est positionné à la fin, qui induit une manière de penser. Et l'idée, c'est d'essayer d'épouser ça et de comprendre quels sont les ressorts et les mécanismes de cette langue-là et ce qu'elles induisent, en fait, jusqu'à même l'interprétation, la caractérisation, en fait, des personnages et des situations. Donc, c'est un large champ d'exploitation, mais, et de recherche. Après, Moi, je suis voilà, c'est atrophié dans ma capacité à ingurgiter d'autres langues que la mienne. Donc, je demande à ce qu'on me traduise, ce qui est très difficile parce que souvent, j'invente des mots. Donc, dans la répétition, Jean-Philippe Guillois, qui m'assiste, qui est un personnage extraordinaire, qui est metteur en scène, évidemment aussi, chorégraphe, mais qui est vraiment préciosissime dans un dispositif comme ça de reprise, et même dans le cadre d'une création, évidemment. Et là, voilà, il est à mes côtés pour tenter de traduire. Donc, je parle français avec des mots d'anglais, avec parfois des petits mots de russe, avec
Anglais.
peut-être. Ouais, c'est vraiment, ça devient une espèce de tour de Babel comme ça, où toutes les langues se mélangent. Et voilà, mon œil guette celui des chanteuses et des chanteurs, parce que de la quelque façon que je m'exprime, je vois dans leurs yeux le moment où ils ont compris. Et que des fois, ça sert à rien de faire un long discours. Je sais que, tac, là, le message est passé. Et après, je peux m'arrêter et je les laisse faire.
Alors, Jean Lhermy, on rappelle que vous êtes à l'Opéra de Lausanne avec Così fan tutte. Je termine. Secondo lei, Giovanni Lhermy, le donne così fan tutte? Si, non?
Bah, la réponse, c'est pas pourquoi mettre une femme entre le oui et le non, dirait la comtesse dans le Marivaux. Et que
J'ai osé.
heureusement que le monde est beaucoup plus complexe que ça, que l'être humain est beaucoup plus complexe, que même quelque chose de binaire où les gentils et les mauvais, ou le blanc et le noir. Je crois que ce qui est beau, c'est de voir comment l'être humain évolue, comment il peut rester attentif à l'autre, comment il va pousser et grandir dans son existence, et de rester ouvert et attentif à ça, afin de permettre à chacune et à chacun de se trouver pour pouvoir se connecter avec les autres, parce que fondamentalement, c'est pas une histoire de les femmes sont comme ci ou les hommes seraient comme ça. C'est comment on arrive à véritablement vivre ensemble et à profiter du petit moment que nous avons sur cette planète, à la fois pour en prendre soin de notre planète et puis de prendre soin les uns et les unes des autres. Voilà.
Merci d'avoir partagé votre passion et de nous faire vivre ensemble, Jean-Yves.
Merci infiniment à vous de me consacrer du temps.